Concertation Femmes,
on lit pour vous.
Terre d'accueil pour femmes immigrantes. Un texte de Marie-Hélène Paradis, paru le 28 mars 2025 dans le Journal des voisins. Les femmes immigrantes dans ces quartiers-villes peuvent, sans frais, suivre des cours de français chez Concertation Femmes afin que la langue ne soit pas un obstacle à leur intégration. L'organisme Concertation Femmes offre beaucoup plus que les cours de francisation. Je dis toujours que c'est un cours d'intégration en passant par la francisation. La langue, c'est important. On ne peut pas s'intégrer si on ne connaît pas la langue, explique la directrice de l'organisme, Maysoun Faouri. Les cours se tiennent du lundi au jeudi, de 9h à 13h15, au Centre culturel et communautaire de Cartierville. Une halte garderie est offerte gratuitement pour les enfants des mamans participantes. Les professeurs. Deux cours de niveaux différents sont offerts aux femmes. Cette année, le cours débutant est prodigué par Gada Krouchan, une femme d'origine syrienne et pharmacienne dans son pays d'origine. Quelques-unes de mes élèves sont jeunes, avec des enfants en bas âge, mais la plupart ont plus de 50 ans. Après quelques années de résidence à Montréal, elles sentent que c'est très important de parler français pour se débrouiller et ne pas se sentir isolées. Je leur dis toujours que quand on connaît une langue, on se sent forte et fière. Madame Krouchan est souvent témoin d'histoires touchantes. Une jeune femme arrivée de la Syrie depuis environ 6 mois est fière de me dire qu'elle a pu parler au professeur de son enfant pour la première fois sans intermédiaire. Élisabeth Quentin est enseignante depuis 2 ans en français langue seconde. J'ai toujours eu une facilité à apprendre les langues et quand je voyais les professeurs enseigner leur langue maternelle, je me disais que j'aimerais moi aussi faire ça. En plus, il y a un côté social qui me parle beaucoup. Faire quelque chose auquel je crois est important pour moi. Les activités. Les activités dans le cadre des cours de français sont importantes pour l'intégration à la vie quotidienne. Hier, par exemple, on a eu des femmes policières qui sont venues rencontrer les élèves. Les policières connaissent ainsi un peu mieux le milieu. Elles apprennent à connaître la population qu'elles vont servir et le rôle de la police est ainsi démystifié pour les femmes immigrantes. On a aussi regardé le documentaire « Bagages » sur l'immigration à Montréal. On fait des ateliers sur le cancer du sein. On rend donc nos enseignements le plus concret possible, explique Élisabeth. Il faut que la grammaire soit associée à la vie quotidienne, comme aller au resto, parler au pharmacien. C'est beaucoup plus que de transmettre nos connaissances de la langue, c'est transmettre notre culture. La philosophie de Concertation Femmes. Maysoun Faouri ajoute que tous les domaines sociaux, tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans les premières années de l'immigration sont abordés. Il faut en plus développer le sentiment d'appartenance avec, entre autres, une connaissance des personnages historiques liés au quartier. Par exemple, savoir qu'Henri Bourassa n'est pas seulement une rue. Assister à des ateliers d'histoire pour mieux connaître le Québec ou participer à l'élaboration d'un cahier de recettes de ton pays. Ce sont des éléments clés d'une immigration réussie. Selon nos moyens, selon les enseignants, selon le niveau de français, on réalise des activités valorisantes avec les femmes. Imagine, tu commences débutante en septembre et au mois de mai, tu es capable de parler au professeur de ton enfant. C'est ça le chemin vers l'intégration. Il faut se fixer un rêve et ne pas se fier à nos enfants pour le réaliser. Tu peux vivre toute ta vie en pleurant le pays que tu as quitté. Mais moi, je dis toujours que j'ai brûlé mon bateau de retour, conclut la directrice. C'était Concertation Femmes, terre d'accueil pour femmes immigrantes. Un texte de Marie-Hélène Paradis, paru le 28 mars 2025 dans Le Journal des voisins.
Dans l'univers feutré du cozy crime, ou quand le noir vire presque au rose sein, une chronique de Norbert Spinner, parue le 10 février 2025, dans les libraires. Vers la fin du siècle dernier, le roman policier dit cozy a envahi les tablettes des librairies anglo-saxonnes avant de se répandre dans les pays francophones au cours des années subséquentes. Dans l'incapacité de traduire fidèlement cet adjectif a priori incompatible avec un genre violent, voire sanglant comme le polar, et plutôt que d'adopter des expressions saugrenues comme « polar pépère »,« douillet »,« confortable » et autres termes approximatifs, les éditeurs ont surtout opté pour l'expression « cozy crime ». Mais de quoi s'agit-il? Connaissez-vous les romans de la série Bretzel et beurre salé du duo Margot et Jean Lemoyle, mettant en scène Cathy, une tenancière de restaurant, enquêtrice amateur, ou les 38 volumes des enquêtes d'Agatha Raisin, de M.C. Beaton, aux titres éloquents comme La quiche fatale ou Pas de peau pour la jardinière, ou encore Les 17 titres de Son espionne royale mène l'enquête, de Rhys Bowen, mettant en scène les aventures d'une aristocrate fauchée et désœuvrée, membre de la famille royale. Dans l'affirmative, c'est que vous êtes friand de ce sous-genre de polar, sans grande effusion de sang, de cadavres hideux ou de détails graphiques glauques. Contrairement à la mode actuelle des thrillers hyper-violents où sévissent psychopathes, tueurs en série et autres engeances criminelles, avec force scène gore, très prisée par les amateurs d'émotions fortes, il est plutôt question, en caricaturant un peu, d'un petit crime au coin du feu, dans un décor bucolique, où l'enquête est menée par une petite grand-mère, du type arsenic et vieille dentelle, le tout assaisonné d'un humour bon enfant. Bref, des meurtres bien civilisés, dans lesquels les victimes ne sont finalement que des pions dans un jeu de résolution d'énigmes à la Agatha Christie. On est loin du noir et de ses préoccupations sociopolitiques ou psychologiques. En général, l'intrigue se déroule à la campagne, dans un décor paisible. Les crimes sont motivés par la jalousie, la vengeance ou la cupidité, comme dans le polar d'énigmes classique. Les armes du crime privilégiées sont le poison, méfiez-vous de la tarte aux pommes de Tante Berthe, ou le meurtre déguisé en accident, soit des drames moins salissants qu'un massacre à la tronçonneuse ou l'emploi d'un couteau, voire d'une hache. Les enquêtes ont pour point commun d'être menées par des détectives très amateurs, comme des retraités, des membres d'un club de lecture de polar, des mères de famille, etc. La plupart du temps, à quelques rares exceptions près, il s'agit de femmes qui n'ont pas de lien particulier avec la police ou la justice. Le cozy a d'abord connu une expansion très rapide dans les pays anglo-saxons, avec une multiplication jusqu'à l'absurde de sous-genres plutôt originaux, comme le polar culinaire, avec ou sans recette intégrée, des tea shop mysteries, des flower shop mysteries, des polars bricolage pompeusement baptisés Interior Design Mysteries et autres polars tricot, polars librairie spécialisés. Ces catégories sont tellement nombreuses que des sites Internet et des ouvrages bibliographiques volumineux leur sont consacrés. La grande majorité des auteurs sont des femmes et le public est très majoritairement féminin, enquête de Library Journal. Comme dans le cas des romans harlequins, les exceptions masculines sont donc plutôt rares. C'est pourquoi il est assez inhabituel de découvrir que deux auteurs comme Pier Giorgio Pulizzi et Paul Collise, réputés pour leur thriller pur et dur, ont été tentés par l'aventure du cosy. Avec un certain succès, il faut le dire, mais en trichant un peu avec les codes du genre, notamment en injectant une petite dose de réalité et de vraisemblance dans un univers qui tient parfois plus du conte de fées noires que du récit criminel. Dans La librairie des chats noirs, Pier Giorgio Pulizzi mélange de manière habile la modernité violente du thriller et la tradition classique, plus feutrée, du roman à énigmes auquel il rend hommage. Marzio Montecristo, ancien professeur émérite au caractère bien trempé, est maintenant propriétaire de la librairie des Chats Noirs, spécialisée en romans policiers dont la clientèle bigarrée suscite nombre d'anecdotes savoureuses. Il possède deux chats noirs, Miss Marple et Poirot, d'où le nom de sa boutique. Le lieu est fréquenté tous les mardis par un étonnant club de lecture de polar. En plus de Marzio, il y a un prêtre, une retraitée, un vieux dandy et une jeune gothique. Un an plus tôt, à la suite d'un pari, cette poignée d'experts avait aidé la police à résoudre une affaire classée particulièrement complexe. Une fois de plus, leurs amis, les policiers Caruso et Di Masé, vont solliciter l'aide de ce groupe d'amateurs perspicaces et débrouillards pour identifier un criminel particulièrement retors. Truffé d'anecdotes rigolotes sur le travail de libraires spécialisés, avec de nombreuses allusions à la littérature policière, ce polar savoureux, perspicace et intelligent, qui tient presque du conte, se lit d'une traite avec le sourire aux lèvres. Dans Le meurtre de la rue Blanche de Paul Collise, l'héroïne est Emma Toussaint, juge d'instruction à Bruxelles. Grande gueule, souvent vulgaire, à l'humour belge féroce, déterminée, fonceuse et d'une intelligence rare, elle fait un parfait duo avec son greffier, Fabrice Collet, d'un tempérament moins bouillant, mais efficace, organisé et méthodique. Signe particulier, il meurt de trouille chaque fois qu'Emma, la terreur de l'autoroute, prend le volant et menace la sécurité publique. Les deux complices enquêtent sur le meurtre crapuleux d'un avocat célèbre, soupçonné d'appartenir à un réseau d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Au même moment, une affaire classée refait surface, ce qui vient compliquer leur travail d'enquête. L'intrigue classique est bien menée, avec ce qu'il faut de tensions dramatiques, de suspects haïssables et de fausses pistes. Avec ce duo de limiers atypiques irrésistibles qui enquêtent tant bien que mal sur un double meurtre, l'auteur joue subtilement avec les codes du polar cosy auquel il insuffle une dose de modernité en évitant tous les excès du thriller. De facture convenue, sans violence excessive comme il se doit, ce polar bon enfant, qui ne tombe jamais dans la mièvrerie, est écrit dans un style très dépouillé qui imprime un rythme soutenu à une intrigue qui baigne constamment dans un humour fin. Une autre preuve, s'il en est, qu'il n'est pas nécessaire de flatter les bas instincts du lecteur pour écrire un bon roman policier. C'était dans l'univers feutré du Cozy Crime, ou quand le noir vire presque au roussin, une chronique de Norbert Spinner, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires.
La croisade culturelle de Javier Milei, encouragée par le trumpisme. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir. Livres interdits, éducation sexuelle démantelée, droits des femmes attaqués. Depuis son élection il y a un an et demi, le président d'extrême droite Javier Milei mène une véritable guerre culturelle contre le « wokisme » qui, selon lui, gangrène l'Argentine et le monde. Sur l'Avenida Corrientes, les librairies et les théâtres s'alignent sous les néons. Cette artère emblématique de Buenos Aires, longue de 9 kilomètres, vibre jour et nuit. Au milieu de cette effervescence, la Libreria Hernandez tient bon depuis 1973. Bastion de la littérature dans la ville qui compte le plus de librairies par habitant au monde, cette institution familiale a résisté aux crises économiques successives et à la censure de la dictature militaire. En novembre 2024, la liberté des mots a de nouveau vacillé. Soutenue par le gouvernement, des organisations de droite ont demandé le retrait de livres des bibliothèques et des écoles publiques, accusés de corrompre la jeunesse. En ligne de mire, le livre « Cometiera Mangetere » de Dolores Reyes, paru 5 ans plus tôt, qui aborde le fléau des féminicides en Argentine à travers les yeux d'une voyante. D'autres autrices abordant la diversité sexuelle ou les violences de genre ont également été prises pour cible. Tous ces ouvrages faisaient partie d'un programme de lecture mis en place en 2024 dans les écoles publiques de la province de Buenos Aires, dirigé par l'opposition. Une plainte pénale contre le directeur de la culture et de l'éducation de la province, Alberto Ciglioni, a été déposée en novembre 2024 par un groupe conservateur près du gouvernement. Début avril 2025, le quotidien La Nación rapportait que la plainte avait été élargie pour y cibler un jeu de cartes éducatif puisqu'il témoigne d'un parti pris idéologique, selon le groupe. Arrêter de sexualiser les enfants, expulser les personnes qui promeuvent ces programmes néfastes des salles de classe et respecter l'innocence des enfants, écrivait le même mois sur le réseau X la vice-présidente de l'Argentine, Victoria Villarruel, connue pour ses positions ultra-conservatrices. « Toutes des accusations sans fondement », réplique Mariana Leder-Kremer-Hernandez, troisième génération de libraires, rencontrée par Le Devoir. « Ce ne sont pas du tout des livres pornographiques. À l'école, on m'a fait lire des livres beaucoup plus explicites, dont un où il y avait une scène de viol. Mais là, curieusement, ça ne dérangeait personne. Clairement, il y a comme un poids deux mesures, ajoute-t-elle. Depuis le sous-sol de la librairie, sa mère Marisu Hernandez dévoile une section autrefois cachée derrière un faux mur. C'est ici que la famille a préservé des ouvrages interdits sous la dictature, de 1976 à 1983. À partir d'ici, ce sont tous des livres de l'époque, glisse-t-elle, en effleurant des reliures jaunies de Karl Marx ou encore du dramaturge argentin David Vignos. Découverts par les militaires, ces livres ont entraîné la fermeture de la librairie pendant un an et forcé son père à l'exil. Aujourd'hui, la situation est bien différente, reconnaît-elle. Mais elle redoute une nouvelle dérive autoritaire. Ce gouvernement est ce qu'il y a de plus proche de la dictature, dit-elle, évoquant aussi bien les attaques contre les autrices et les journalistes que la répression récente des manifestations. En décembre 2024, Amnesty International en Argentine alertait déjà sur la réponse répressive du gouvernement face aux mobilisations, évoquant des pratiques propres à un gouvernement autoritaire. En 2024, plus de 1000 personnes ont été blessées dans le cadre de 15 manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre. Imposer le silence. Pour Luchi Cavallero, sociologue et l'une des fondatrices du collectif féministe Ni Una Menos, pas une femme de moins, cette polémique sur les livres s'inscrit pleinement dans la guerre culturelle menée par le gouvernement. Fer de lance des immenses manifestations contre les violences faites aux femmes en 2015, Ni Una Menos a joué un rôle clé dans la légalisation de l'avortement en 2020 en Argentine, devenant le premier grand pays d'Amérique latine à franchir ce cap historique. Cheveux en bataille et tronçonneuse en main, Javier Milei avait promis dès sa campagne, qui a mené à son élection fin 2023, une rupture radicale avec la politique traditionnelle et une réduction drastique du rôle de l'État. L'éducation, comme de nombreux services publics, n'a pas échappé à cette volonté de démantèlement. L'éducation sexuelle à l'école est particulièrement visée. Adoptée en 2006, la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, avait pourtant prouvé son efficacité pour prévenir les violences de genre et réduire les grossesses non désirées des adolescentes. Mais Javier Milei la considère comme un outil d'endoctrinement à l'idéologie de genre et a récemment fait supprimer certains de ses contenus destinés aux élèves et aux enseignants. Le gouvernement accuse ceux qui veulent parler de sexualité de vouloir en quelque sorte sexualiser l'enfance, mais le but ultime est d'imposer le silence, dénonce Luchi Cavallero. Cette offensive s'accompagne d'autres mesures ciblant les femmes et les minorités. Suppression du ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, démantèlement de divers programmes conçus pour réduire les grossesses chez les adolescentes et, l'été dernier, dissolution par décret de l'INADI, organisme de surveillance anti-discrimination. Le président Milei l'avait qualifié de « bande de corrompus ». Radicalisé par Trump. Dans les locaux de Ni Una Menos, situés près du Congrès, Luchi Cavallero prévient « On finit l'interview et tu pars vite ». En cette journée de mars, à quelques dizaines de mètres, des barricades et des policiers anti-émeutes attendent l'habituel rassemblement du mercredi en soutien aux retraités, frappés de plein fouet par l'inflation chronique depuis des années, mais aussi par les politiques d'austérité du gouvernement Milei. La semaine précédente, des affrontements avec la police avaient fait 20 blessés, dont un photojournaliste grièvement atteint par une grenade lacrymogène. À Buenos Aires, la contestation grandit. Le 1er février 2025, des centaines de milliers d'Argentins sont descendus dans la rue pour une immense marche antifasciste, antiraciste et pour les droits LGBTQ+. Un climat tendu, exacerbé par un discours incendiaire du président au Forum économique de Davos quelques jours plus tôt, où il a dénoncé le « wokisme » et le féminisme radical, associé homosexualité et pédophilie, et attaqué la classe politique et les institutions internationales, à l'exception de ses chers amis, le président américain Donald Trump, ou encore la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce style populiste et sa proximité avec Donald Trump et le milliardaire Elon Musk ont valu au président argentin, qui se revendique anti-système, une attention internationale. Et sa radicalisation semble s'être accentuée après la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre dernier. « Ça a été un tournant », croit Luchi Cavallero. La victoire de Trump a été un passage, un seuil vers la violence. ça a ouvert la voie à l'attaque de certaines populations en utilisant une rhétorique raciste, sexiste et misogyne. Milei s'est senti légitimé et utilise les forums internationaux pour faire preuve d'une obéissance extrême, soutient la chercheuse à l'Université de Buenos Aires. Selon elle, le discours de Milei à Davos a marqué une étape décisive dans sa guerre culturelle. Un changement de cap par rapport à son intervention de 2024, où il se présentait davantage en défenseur du libéralisme économique. Le « wokisme », bouc émissaire de Donald Trump, est aujourd'hui sa nouvelle obsession, écrivait le journal Perfil en janvier. L'épreuve de feu pour Javier Milei viendra en octobre 2025 avec les élections législatives. En décembre 2024, un sondage du quotidien El Clarín lui accordait 52,3% d'opinion favorable. Pour l'instant, Milei capitalise sur un bilan économique encourageant. Il a réussi à faire reculer l'inflation de 211,4% fin 2023 à 117,8% l'année dernière. Le taux de pauvreté, qui avait atteint un record de 52,9% au premier semestre 2024, est retombé à 36,8% en fin d'année, en partie grâce au ralentissement de l'inflation. Les gens ont généralement voté contre la profonde instabilité économique qui pesait sur leur quotidien, avec l'espoir d'un progrès social. Les gens étaient frustrés, mais ils n'ont pas voté contre le féminisme, insiste Lucy Cavallero. À la Libreria Hernández, comme ailleurs en Argentine, on suit la situation de près. Ironie du sort, la polémique sur les livres aura fait tripler les ventes du livre de Dolores Reyes. Au moment de notre passage, plus aucun exemplaire en stock. Revenez demain ou la semaine prochaine, nous dit-on. Sourire en coin. C'était la croisade culturelle de Javier Milei, encouragée par le Trumpisme. Un texte de Laurence Niossi, paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir.
Hakim Gagnon, dans l'univers d'Alexis Martin, Chambre en ville. Un texte d'Hakim Gagnon, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires. Alexis, si on parle de l'écriture en tant que telle, les lieux, est-ce que le canal s'ouvre partout pour toi ou il y a des endroits qu'il s'ouvre plus facilement que d'autres? Ben moi, tu vois, je suis pas capable d'écrire dans des cafés. Tu sais, il y a bien du monde qui fait ça. Moi, je pense que j'ai quand même besoin de silence. Donc, ça peut être ici. Ou peut-être dans une bibliothèque. Mais j'écris mieux dans une chambre, je pense. Une chambre fermée, en silence. J'aime ça, le silence, pour écrire. Mais c'est sûr qu'avoir de l'argent... Je rêverais d'avoir un petit pavillon d'écriture, tu sais, en plein milieu du bois, une petite cage, là. On rêve tous de ça, hein? Oui. As-tu un rituel? Non, non, non. Mais j'écris, je fais beaucoup de plans encore, tu sais, main, papier. J'écris encore beaucoup à la main. J'aime ça parce que j'écris aussi à l'ordinateur, mais l'écran... Il met en pression. Il y a quelque chose d'actif, même dans le clignotement du curseur, alors que le papier, lui, il est patient. La main est patiente. La main est limitée. Tu sais, on pogne vite des crampes. Le papier est patient, l'encre est patiente. Donc, on n'écrit pas n'importe quoi, forcément. J'écris autrement. Des fois, j'ai besoin d'être sur le papier. C'est un autre rapport au temps, je trouve. puis un autre rapport physique aussi. C'est plus dur à la main quand même. Toi?
Moi? Très, très tôt le matin, sur mon iPad, avec de la musique classique bien, bien forte, en fumant un cigare.
Le cigare? Dis-moi la vérité. On n'inhale pas du tout?
Avant de me trouver au cœur de cette formidable discussion, le cul sur une chaise de bois, tout près d'une monumentale bibliothèque composée de planches de pruche, les coudes bien à côté sur la table, à expliquer à Alexis Martin ma façon de fumer des barreaux de chaise, il s'est passé bien des affaires. D'abord, un contexte, c'est-à-dire une invitation de la part de la revue Les Libraires pour me faire rencontrer un auteur que j'admire et me permettre de plonger dans son univers. Ensuite, un délai d'attente raisonnable pour laisser à mon invité le temps d'accepter ou de décliner la demande. Et finalement, la rencontre d'aujourd'hui. La dière étape mentionnée ci-devant nous informe du verdict positif de la seconde étape. En après-midi, à l'horaire, j'ai une rencontre avec Alexis Martin. À la bonne heure. Ça va me permettre de sillonner la ville à travers une tempête à près de moins 20 degrés Celsius, avant de me faire réchauffer le cœur, je l'espère, par l'ardent talent de l'auteur-acteur. J'ai hâte. J'adore l'hiver, surtout la neige. C'est un petit plus au bonheur. Comme une motte de parmesan sur des pâtes bolognaises. Pour orner le texte, on me demande de joindre 6 photographies. J'apporte donc avec moi, dans ma grande traversée hivernale, un Hermann blanc et white caméra, appareil à usage unique. Je marche vers le sud, mes bottes fendent la neige. Des rafales dignes du pôle Nord m'attaquent. À mon arrivée chez Alexis, je suis gelée comme un crottin de cheval avec lequel, à l'époque, on aurait pu jouer au hockey. Il m'ouvre sa porte, je plonge dans sa canicule et tente d'emmagasiner le maximum d'informations, le lieu, les couleurs, l'ambiance, la température, l'espace, l'énergie. Mais je n'y parviens pas. Non, toute ma concentration s'accroche à l'allure d'Alexis Martin. Il revêt un veston noir d'une qualité notable, un sobre t-shirt du même pigment, des pantalons discrets, ainsi que des gougounes avec des bas. Ça me charme tant et tellement que j'en oublie presque mon mandat. Ne faisant ni une ni deux, je sors de mon sac mes crocs couleur camouflage qui supportent moelleusement mon imposant gabarit depuis 6 années. Est-ce que le veston d'Alexis est une tentative d'attirer mon attention ailleurs que sur ses sandales? Est-ce que le camo sur mes crocs agit comme une cape d'invisibilité? Est-ce que lui et moi, nous nous bernons mutuellement au profit de l'aise de nos petons? Assurément. Ta gueule, ta crise de gueule! Une locution tirée de sa pièce, Matronie et moi, qui s'est greffée à mon langage il y a belle lurette. Voilà comment j'ai découvert le talent d'auteur d'Alexis Martin. Je me souviens très bien que cette œuvre, que j'avais vue en film VHS, m'avait impressionnée. Même plus que ça. Elle m'avait bousculée, frappée. J'en fais part à l'auteur et tout de suite, il rebondit là-dessus en me disant « L'art, tu sais, l'art qui nous frappe. L'art, ça sert à décentrer aussi, au fond. Une œuvre qui est signifiante pour nous, puis ça dépend pour chacun, c'est une œuvre qui nous met un peu à côté de la traque habituelle. Tu sais,
Ça sert à ça, au fond. Sinon, pourquoi rajouter une œuvre de plus? Dans Matroni et moi, c'est ce que tu voulais volontairement faire? Je pense que c'était parti d'une préoccupation vraiment plus politique. C'est-à-dire, je pense que toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui arrivent au début de l'âge adulte se posent la question de la justice, au fond. Comment ça se fait que nos parents, qu'on considère comme des gens justes, normalement, ont enduré ou tolèrent une société où règne finalement l'injustice? Je pense qu'on passe tous par là, par une sorte de révolte un peu adolescente. Se dire, voyons donc, votre monde est pourri. C'est pas ce que nos parents nous ont vendu, parce que leur job, c'est souvent de cacher des trucs un certain temps. Exactement. Mais eux-mêmes le vivent, ce paradoxe-là, mais finissent par l'oublier. Puis après, en vieillissant, on se rend compte que les gens, ils font ce qu'ils peuvent dans la vie. Mais tu sais, ça a été ça, mon moteur, pour Matroni et moi. Vous écoutez Hakim Gagnon dans l'univers d'Alexis Martin, Chambre en ville, un texte d'Hakim Gagnon paru le 7 avril 2025 dans Les libraires. Ses réponses, si précises et rigoureuses, ne m'inspirent rien d'autre que du réconfort. L'interview que j'imaginais être un monologue se transforme en dialogue où les deux parties joignent leurs perceptions pour créer un échange où rapidement personne ne se sent touriste dans la conversation. Sa curiosité est flatteuse et déconcertante. L'idée d'écrire un papier sur Alexis, qui résumerait de façon assez intérieure ma rencontre avec lui, fout le camp. Je crois que, lorsqu'on a en face de soi un des meilleurs dialoguistes du Québec, on n'a pas le choix de dialoguer. Je dénote souvent la force des dialogues dans ce que tu fais. C'est quoi la place, justement, au « parler » dans tes œuvres? La langue, ça a été une préoccupation constante, je pense, dans tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que vivre au Québec, c'est vivre dans la difficulté de la langue. C'est-à-dire qu'on a un rapport au langage qui est très différent de ce qu'un Français moyen peut avoir. Nous, on est dans le doute, dans le questionnement. Il y a une forme de schizophrénie aussi. Il faut être bilingue dans sa propre langue au Québec. Il faut être capable de communiquer avec tout le monde, avec des gens souvent dont la langue est très approximative et difficile. Le faire avec humilité, en tout respect. Mais en même temps, être capable de communiquer aussi avec l'universitaire ou avec le metteur en scène qui a un autre langage. Il faut être un peu schizo dans toute cette réalité-là. On est toujours en train de jouer une sorte de « est-ce que je parle trop bien et ça va paraître baveux ?» ou, au contraire, « si je fais trop semblant d'être au même niveau de dialogue, j'ai l'air d'être condescendant ?» Le langage, c'est une arme. Il faut savoir s'en servir. Le rapport de tous les Québécois par rapport à la langue française, c'est un rapport un peu d'assiégé. Ça percole, ça vient nous teinter quand même. On a un rapport à la langue qui est difficile. Langue québécoise, donc, culture québécoise, c'est primordial dans ton écriture. Oui, comme je te dis, j'étais toujours très fascinée par tous les atours de la langue, en fait. Chaque langue porte son double aussi. Par exemple, j'ai fait une pièce avec Pierre Lefebvre sur la contamination de la langue managériale de notre langue par la langue de la publicité puis du marketing. On s'est mis à analyser beaucoup les sites des organismes pour découvrir cette langue-là qui est une langue de stéréotypes, de formules. Alors ça aussi, c'est un des doubles de la langue. C'est une langue, au fond, qui est inerte, qui masque la pensée, qui empêche la pensée. À côté de ça, t'as une autre langue qui est le double de cette langue-là. C'est la langue poétique, la langue théâtrale qui, elle, fuit cette langue abstraite-là, cette langue de stéréotypes, pour revenir à la langue concrète. C'est-à-dire la poésie. La poésie, c'est ça, au fond. C'est ce que Miron explique bien, puis ces poètes-là. On revient un peu à ce que le langage a de concret, c'est-à-dire comment faire sonner les arbres, le vent, l'eau, le silence de la forêt, le baiser. Alors là, la langue se déploie autrement, complètement. Puis t'as des répétitions, des allitérations, des mots, des associations de mots qui sont pas habituelles. Toute la quincaillerie poétique. Donc, toutes ces tensions-là de la langue, c'est ça qui m'intéresse. Puis, dans mon théâtre, souvent, j'ai fait côtoyer toutes sortes de registres de langue, comme ça. Ça correspond à la vision que j'ai d'un monde qui est vraiment une mosaïque, très mal adjointée, avec plein de taches aveugles, puis d'angles morts. Fact, c'est la langue dans tous ses états, en fait, qui m'intéressait. Puis j'aime ça mettre ça sur scène, puisque la langue devient comme un personnage, un déguisement en soi, au fond, qu'on se met comme comédien. Je m'habille avec une langue. La langue s'incarne dans un personnage. C'est ça qui m'intéresse beaucoup au théâtre. Puis j'ai beaucoup fait ça dans pas mal toutes mes pièces. Il y a comme toujours cet aspect-là un peu. Comment on parle, qui parle à qui et comment. Son univers, c'est les mots. Voilà pourquoi une chambre silencieuse lui suffit pour créer le monde. Au détour d'une phrase, je porte mon regard sur une tablette de sa bibliothèque. Un petit bonhomme du capitaine Haddock me regarde, droit dans les yeux. Il me rappelle la première pièce de théâtre que j'ai faite à 6 ans, « Les bijoux de la Castafiore ». Moment magique dans ma vie, où j'ai rencontré les arts, les mots, où mon univers a commencé à se former. 29 ans plus tard, je me retrouve à la table d'un grand dramaturge à essayer de jouer le rôle d'un journaliste. Sans le savoir, Alexis a mis en scène un moment riche en inspiration. Je me sens bien chez lui, mais j'ai juste envie de crisser mon camp en courant pour rentrer chez moi, me jeter sur mon iPad et écrire que son univers est un peu le mien. De ce que je comprends, on partage un peu la même chambre, le Québec. Quand on se sert de la langue comme matière première, est-ce que le déclin du français fait peur? C'est une question complexe. Parce qu'on peut appeler déclin ce qui est plus une évolution. Alors là, on fait un jugement de valeur. Est-ce que c'est un déclin ou c'est une évolution? Mais la langue évolue tout le temps. Mon problème, c'est quand les gens ne sont plus conscients de la langue qu'ils parlent. Ils parlent une langue qui est contaminée par la culture populaire anglo-saxonne. Et puis là, ils ne se rendent pas compte que leur langue, finalement, c'est plus eux qui la choisissent. Mais qu'il y ait des emprunts à l'anglais, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je veux dire, il faut le faire, d'ailleurs. Parce que quand je mets des personnages qui parlent en scène, je ne suis pas là pour donner le bon exemple. Je suis là pour refléter ce que j'entends aussi. Tu sais, le nombre de locuteurs français, ça vient avec les enfants qu'on fait, puis l'immigration francophone, puis c'est tout. Qu'est-ce que ça va être dans 50 ans? Qui peut le dire? je vais pas revirer à l'Église catholique, puis partir en croisade pour de la natalité. C'est minimum 6, madame. Je dois écrire un bon livre, là. Ça prend des bébés, madame. Ça prend des lecteurs, madame. Tout ce que je peux faire, moi, comme écrivain, c'est de mettre la langue en scène du mieux que je peux, avec le plus de variété possible, puis le plus d'inventivité possible. C'est tout ce que je peux faire. Amen. C'était Hakim Gagnon dans l'univers d'Alexis Martin, Chambre en ville, un texte d'Hakim Gagnon, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires.
Une lointaine image de Washington, vue d'ici. Un texte de Félix Ouellet, paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. Dire que les Américains sont fiers de leur pays relève de l'euphémisme. Il en va de même pour leur histoire. La naissance de leur République est perçue comme une expérience radicale. Dans une tournure de phrase biblique, les élus démocrates et républicains font souvent référence à « The Shining City on a Hill » pour décrire la manière dont la démocratie américaine est un exemple offert au monde. Un personnage est plus particulièrement au centre de ce récit, George Washington. Son nom est devenu celui d'une capitale et une métonymie pour désigner le gouvernement des États-Unis. Washington promet une nouvelle aide militaire. Washington annonce des investissements. Les contrastes entre le premier président et l'actuel, Donald Trump, sont nombreux. Le retour de ce dernier à la Maison-Blanche continuant de générer des craintes aux États-Unis, au Canada et dans le monde. Philadelphie est un haut lieu du tourisme historique aux États-Unis. Des millions d'Américains s'y rendent chaque année afin d'observer la Liberty Bell, la cloche qui résonnait en haut de la Pennsylvania State House, renommée Independence Hall, là où la Déclaration d'indépendance du pays a été signée. Pour l'amateur d'histoire, sa visite est un détour obligé au cœur des origines du pays. Les bâtiments patrimoniaux qui ont été témoins des premiers moments des États-Unis ont une aura de sanctuaire pour bien des Américains. Ils forment aujourd'hui un parc national gardé par les fameux Rangers qui présentent des visites guidées. Une des activités offertes aux touristes consiste à visiter le Congress Hall, voisin moins connu de l'Independence Hall, qui a accueilli la Chambre des représentants entre 1790 et 1800. Le personnage clé de cette visite est George Washington, fait étonnant dans la ville de Benjamin Franklin, un autre père fondateur. Pendant la visite, les guides nous racontent plusieurs anecdotes liées au bâtiment. Le parcours se termine avec le désistement de George Washington face à la possibilité d'un troisième mandat, exposé comme un exemple de son désintéressement personnel. Troisième mandat. En 1796, George Washington publiait son « Farewell Address » dans le « Daily American Advertiser », aussi connu comme le « Pennsylvania Packet », un journal de Philadelphie qui fut un des premiers organes de presse américains à connaître un succès populaire. Puis, en 1797, il quittait pour de bon la présidence et l'enceinte du Congress Hall. Son gouvernement était critiqué, mais de nombreux collègues lui demandaient de rester. Les gardiens du parc racontent l'épisode, non sans une pointe de romantisme, en indiquant une porte par laquelle George Washington aurait quitté le bâtiment en tournant le dos à la politique. Après son départ, les alliés demandent à leur ancien compagnon d'envisager de reprendre du service, mais il refuse à nouveau. Pour le Ranger qui nous racontait les derniers instants de sa présidence, George Washington représentait une incarnation digne de la République américaine. C'est également la vision qui prévaut dans l'imaginaire collectif aux États-Unis, malgré des contradictions évidentes. Faut-il rappeler que le général devenu un symbole de liberté possédait des esclaves? Vous écoutez une lointaine image de Washington vue d'ici, un texte de Félix Ouellette paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. Retour au présent. La ville de Philadelphie nous plonge dans l'histoire, mais, inévitablement, le présent nous y rattrape toujours. The City of Brotherly Love est la plus grande ville de la Pennsylvanie, l'un des États-clés que Donald Trump devait remporter en novembre 2024 pour espérer se réinstaller à la Maison-Blanche, ce qu'il a réussi le 5 novembre 2024. Dans son numéro électoral de novembre 2024, le magazine The Atlantic présentait en couverture un portrait du premier président. En dessous, les mots « The Moment of Truth » ne mentionnent pas Trump, mais l'insinuation ne laisse aucun doute à personne. Dans un long article, l'historien Tom Nichols, un républicain s'étant éloigné du parti depuis quelques années, estime que Donald Trump est l'homme que George Washington craignait un jour de voir à la tête des États-Unis. Comme le rappelle l'article, le général virginien était irrité par la possibilité qu'un roi finisse par accaparer le pouvoir aux États-Unis. Une crainte compréhensible dans l'esprit d'un homme qui avait lui-même combattu une monarchie. Avant même le début de son mandat, Trump a évoqué à quelques reprises la possibilité d'être élu pour une troisième fois, brisant la tradition établie en bonne partie par le général Washington. À la différence de son prédécesseur, le républicain est formellement retenu à l'extérieur de la Maison-Blanche en vertu du 22e amendement inscrit dans la Constitution en 1951. Un seul président a dépassé cette limite, alors tacite. Franklin Delano Roosevelt a été élu à 4 reprises, une exception qui s'explique en bonne partie par la terrible crise économique des années 1930 et le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ce respect de l'esprit et des principes de la République des pères fondateurs, si fréquemment soulevé dans les discours des parlementaires, républicains comme démocrates, semble trouble à l'aube d'un nouveau mandat de Donald Trump. Ce dernier avait tout de même promis d'être un dictateur au premier jour de sa présidence, une phrase qui avait ranimé le souvenir de l'attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. Dans son discours d'adieu quelques jours avant l'inauguration de son rival, Joe Biden a affirmé, comme il l'avait répété plusieurs fois auparavant, que l'âme de l'Amérique demeurait en jeu. Pendant la campagne électorale, Kamala Harris avait qualifié Trump de « petit tyrant » afin de souligner le danger qu'il représentait envers la démocratie, selon elle. Destinée manifeste. Le retour de Donald Trump fait réémerger une autre référence historique dans la presse américaine, la « Manifest Destiny ». Celle-ci, bien plus récente que les pères fondateurs. Elle découle d'une Amérique qui voulait s'étendre de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, annexant à son territoire des milliers de kilomètres carrés jusqu'alors occupés en grande partie par des nations autochtones. Si la destinée manifeste est généralement comprise de l'Est vers l'Ouest, Donald Trump pointe à la fois en direction du Sud et du Nord. Le président a annoncé ses intentions. Il souhaite reprendre le contrôle du canal de Panama, originellement une propriété américaine retournée aux Panaméens en 1977 par Jimmy Carter, un autre président dont le caractère a été mis en opposition avec celui qui occupe à nouveau la Maison-Blanche depuis quelques jours. Comment ne pas y voir les relents de l'interventionnisme américain en Amérique du Sud et de la fameuse doctrine Monroe? Son regard s'est aussi posé sur le Nord lorsqu'il a réitéré sa volonté, exprimée durant son premier mandat, d'acquérir le Groenland en n'excluant pas d'utiliser la force. Une déclaration qui a vite été décriée en Europe comme une attaque à la souveraineté du Danemark, à qui appartient l'île arctique. Autre désir d'expansion septentrionale, Donald Trump a affublé le premier ministre Justin Trudeau du titre de « gouverneur du Canada », signifiant implicitement que le pays pourrait devenir un État américain. D'abord pris à la légère, ces propos ont plutôt entraîné une vague d'incertitudes allant crescendo en marge de l'annonce impromptue de la mise en place de tarifs de 25 % sur l'ensemble des importations canadiennes dès son arrivée en poste. À force d'être répétées, les visées annexionnistes du président, d'abord balayées comme des blagues par Ottawa, sont devenues inquiétantes. Vu d'ici, la relation entrelacée des Québécois aux États-Unis a été explorée maintes et maintes fois. Partenaires précieux, amis puissants, hégémones culturels craints ou républiques démocratiques à imiter. Le voisin apparaît sous de nombreuses formes. Dans l'histoire québécoise, les contacts avec les Américains sont aussi inévitables qu'intimes. George Washington a été officier de l'armée britannique pendant la guerre de la conquête et sa signature au bas de la capitulation du Fort Necessity est conservée à Montréal. Des centaines de milliers de Canadiens descendent des loyalistes issus des 13 colonies installés au pays après la guerre d'indépendance américaine. La République américaine a envahi le Canada en 1812. Des patriotes se sont exilés aux États-Unis après les soulèvements de 1837 et 1838. Nombre d'entre eux, comme Ludger Duvernay et Louis-Joseph Papineau, expriment même une vive admiration pour les États-Unis, au point de songer sérieusement à la possibilité de s'y joindre par moment. Au 19e et au début du 20e siècle, plus de 900 000 Canadiens français se sont installés au sud de la frontière, si bien que des millions d'Américains sont, sans le savoir, bien souvent, eux aussi originaires de la vallée du Saint-Laurent. Avec le temps et la force de l'assimilation, George Washington est sans doute devenu pour eux le père fondateur de leur pays, alors que leurs cousins restent toujours sujets d'une couronne qu'il a combattue. La distance qui existe avec les grands personnages historiques est forgée dans le mythe et leur crée une image lointaine, ici comme aux États-Unis. La perspective très actuelle d'une remise en question de principes qu'ils en sont venus à incarner ne manque pas de les rapprocher considérablement. C'était une lointaine image de Washington vue d'ici. Un texte de Félix Ouellette paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir.